Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans cet épisode 11 de Popcorn Sucré. Je suis Alix et je suis aujourd'hui avec Victoire.
Bonjour.
Avec Enora.
Bonjour.
Et avec Léna.
Bonjour.
Et bien, sans plus attendre, je vais laisser Enora nous parler de sa première chronique.
Donc moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Blue Summer ou Song Song Blue, c'est un film chinois, un premier film d'une réalisatrice qui s'appelle Zihan Zheng, qui sort le 20 mars 2024 en France, mais que j'ai vu lors du festival Chéri Chéri, qui est un festival de films LGBT dans les MK2, et qui avait aussi été présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes et qui a eu le grand prix au festival Nouvelle Vague de Biarritz. Donc le synopsis, c'est l'été. Et Xian a 15 ans et elle doit rester chez son père photographe quand sa mère médecin part en mission en Afrique. Elle va donc y rencontrer la fille de sa belle-mère, donc de la nouvelle compagne de son père, Ming Mei, qui est d'origine coréenne, qui est libre et séduisante et qui la fascine. Et donc cet été va marquer pour Xian la fin de son enfance et le début de ses désirs. Donc déjà, la première chose qu'on remarque et qui est fortement liée au titre, parce que le titre c'est soit Blue Summer, soit A Song Song Blue, donc il y a le mot bleu qui ressort, c'est que l'esthétique est magnifique, elle est vraiment magnétique, la photographie, tout est bleu en fait, c'est une sorte de brume bleutée sublime qui va nous emporter vers les voluptés du désir adolescent. Tout est fait dans une certaine douceur aussi et tout est suggéré, il n'y a rien de cru. Et c'est un film qui parle donc d'une jeune fille qui est attirée par une jeune femme, mais sans jamais interroger cette attirance. Xian, qui est donc adolescente, ne se demande jamais pourquoi elle est plus attirée par les filles que par les garçons, parce qu'il y a une scène aussi où il y a un garçon de sa classe qui va la draguer. Et au début, elle répond un peu à ce mec, mais quand elle va essayer de l'embrasser, elle va voir que ça marche pas. Et donc c'est jamais interrogé si c'est normal ou pas, ce qui peut être encore plus étonnant dans un pays comme la Chine, parce que c'est assez tabou. Je me souviens que j'avais parlé il y a quelques semaines d'un hiver à Yangji, où c'est pareil, c'est une sorte de triangle amoureux, et il y a aussi une ambiguïté entre deux hommes, mais c'est jamais, c'est toujours suggéré, c'est jamais dit crûment, quoi. Et il faut donc savoir que le film est passé miraculeusement au travers des mailles de la censure, parce que c'était un moment de relâchement après la nomination d'un nouveau responsable du bureau en janvier 2023. Donc le film a réussi à sortir en Chine malgré tout, alors qu'il aurait pu être censuré. Et donc tout cela préfigure un nouveau courant de cinéma au féminin, de cinéma chinois, qui a commencé à émerger depuis quelques années et dont Zihan Zheng est donc une des figures de proue. Mais malgré tout, malgré cette esthétique magnifique, c'était pas un coup de cœur pour moi. J'ai une copine qui a beaucoup plus aimé que moi. Moi, j'aime les films lents et assez contemplatifs. D'habitude, je suis fan des films asiatiques, et pas pour généraliser, mais en général, ils sont plus contemplatifs que les films occidentaux, on va dire. Mais là, j'ai pas trop accroché parce que c'était assez formel au niveau du scénario. C'est un récit initiatique assez convenu, une sorte de Call Me By Your Name chinois au féminin. Et je trouvais que la singularité ne ressortait que de son esthétique qui est sublime. Donc c'est un joli film, je vous le recommande si vous êtes intéressé par le scénario, par la photographie en général, mais sinon vous n'êtes pas obligé d'y aller.
Bah, merci beaucoup Enora. Moi je vais vous parler d'un autre film qui faisait partie de la sélection de la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes. En vous parlant de Conan, qui a été réalisé par Bertrand Mandicot, et cette chronique là, je vais en partie m'inspirer de la chronique que j'avais faite pour nos carnets canois l'année dernière. Donc, quand j'étais au Festival de Cannes, j'y suis allée sans même lire le synopsis, et en fait, je m'étais absolument pas préparée à un film pareil. En fait, dans Conan, on va suivre Rainer, le chien des enfers, qui va nous raconter l'aventure légendaire de Conan, la barbare, qui finit toujours par être assassiné par son propre avenir, par son moi du futur. Donc en fait, dans un seul film, on a 6 vies, 6 histoires, 6 actrices pour une seule Conan. Et en un mot, le film, c'est une grosse surprise. En fait, j'ai rarement vu, sinon jamais vu, un film réalisé d'une telle manière, en fait. le film en lui-même, c'est un concentré de barbarisme, pour reprendre le thème. On a des massacres à répétition, du sang, des tripes, du cannibalisme, tout est montré, dans une ambiance heroic fantasy super kitsch, super esthétique, et le tout sous une pluie de paillettes, avec des défilés de mannequins sur une musique électro. On passe de noir et blanc à des couleurs qui pètent, à des dialogues en français, en anglais, en allemand, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens, pendant la diffusion du film, sont sortis de la salle, et même d'autres après, à la sortie, ils n'ont pas arrêté de critiquer ce choix de la quinzaine du cinéma, des cinéastes, parce que c'est quand même assez particulier comme film. Moi, je trouve que c'est la preuve que le film est ultra efficace et qu'il a fait réagir comme il fallait. Outre la réalisation qui est extrêmement originale, le film il détourne de façon super intelligente et érotique Conan le barbare, l'archétype de l'homme viril et puissant, anciennement joué par Arnold Schwarzenegger, pour vraiment en faire un personnage féminin, féministe, lesbien, et témoin de la violence barbare de notre société. Donc voilà, c'est un film qui n'est pas pour tout le monde, mais si vous voulez vous surprendre vous-même, bah, je vous conseille fortement d'aller le voir.
Et oui, moi j'étais justement allée voir l'avant-première de After Blue, qui passait à la semaine du cinéma du Bureau des Arts de Sciences Po.
Oui.
Donc en avant-première, il y a 2 ans, et personnellement, je ne suis pas du tout sensible à Bertrand Mandicamp, pour ne pas dire que j'avais eu beaucoup de mal pendant After Blue, mais s'il y a une chose que personne ne peut lui reprocher, c'est d'oser et de faire parler lui, et d'assumer entièrement le kitsch de son esthétique. Moi, c'était une planète voilà, où il n'y avait que des femmes, avec il y en avait une qui avait énormément de poils, il y avait des trucs qui giclaient de partout, il y avait des paillettes aussi. Donc, c'est
assez particulier.
Est-ce que c'est un peu genre Gaspard Noé?
Ah, j'ai pas la rêve. Non, mais franchement, du coup, je connaissais pas celui-là de Bertrand Mandicot, donc j'ai vachement accroché. C'est quelque chose qui m'a totalement surprise, donc franchement,
ah oui,
il faut que je m'intéresse.
C'est
le mot, là.
Donc, si vous voulez vous faire un petit trip sans rien prendre, regardez les films de Bertrand Mandicot.
Bah, nickel, alors.
Sans rien prendre. Lui a peut-être pris quelque chose.
Ouais, c'est possible. Vu le film. Bah, du coup, Léna, je te laisse faire ta chronique, toi.
Bien sûr. Vous vous direz que moi aussi, j'ai pris un truc, parce qu'en fait, je vais vous parler de Canard qui parle. C'est-à-dire, plus précisément, de Migration, qui est un film de Benjamin Renner et Guillo Homsny. Je crois que c'est le cas dans toutes les projections, ou en tout cas c'était le cas cet après-midi quand je suis allée le voir au UGC Montparnasse. Mais on arrive, on s'installe, et là direct commence un espèce de extrait de spin-off de Moi moche et méchant. Je veux dire que j'étais un peu surprise de voir des petits pouces jaunes à l'écran alors que moi j'étais là pour voir des canards qui parlent. Mais en fait voilà, c'est Illumination qui a fait Moi moche et méchant, qui est également à l'origine de Migration, et qui profite de la sortie de Migration pour en fait capitaliser sur ces univers qui sont déjà très connus, Moi moche et méchant, en montrant en exclusivité, bah, si vous venez, vous pourrez voir ce petit court-métrage extrait de Moi moche et méchant 2, exclusif. Donc on est vraiment dès le départ, on est plongé en fait dans ce vocabulaire d'Illumination qui est dans l'humour, parfois dans l'absurde, qui est très dans le dessin animé au sens le...
cartoonesque.
Voilà, au sens cartoonesque, comme tu dis, Alix. Et on nous présente, ou en tout cas on veut nous présenter donc Migration comme la suite dans un autre univers des aventures du studio Illumination. Et moi, ce que j'ai compris de ce court-métrage qui était au début, c'est regardez, ça a déjà été un grand succès, préparez-vous au prochain grand succès. Sauf que, moi j'ai pas trouvé que ça soit un succès. Pour vous la faire courte, on est face à une famille de canards. Mac, Pam, qui sont le papa et la maman. Dax, qui est l'ado qui a envie de se rébeller. Gwen, la petite, qui a une forte personnalité. Et tonton Dan, le vieux tonton, un peu un vieux, pas gâteux, mais c'est un vieux crouton. Et Mac, le père, a peur de tout, sauf qu'à un moment, il y a des canards en migration qui arrivent, qui disent « Ouais, nous, on va en Jamaïque, c'est trop bien, il y a de l'eau qui brille. » Vraiment, je cite. Et « Venez avec nous !» Et Mac dit non, on va se faire bouffer si on sort de notre étang, ça va pas du tout. Sauf que toute sa famille lui dit bah nous en fait on a horriblement envie de partir, on a envie de vivre une aventure, on a envie de découvrir la Jamaïque, ça a l'air trop bien. Et Mac cède, et du coup bam, la petite famille part en chemin vers la Jamaïque. Sauf que bien évidemment, comme vous y attendiez, il y a des péripéties et leur voyage ne va pas être aussi simple que prévu. En fait, oui, c'est une histoire d'aventure. Mais moi, étonnamment, j'ai trouvé que le film posait, alors que c'est clairement un film pour enfants, la salle était vide, mais si elle n'avait pas été vide, il y aurait eu plein d'enfants. C'est un film qui parle, j'ai trouvé, d'indépendance. D'indépendance du fils, qui n'est pas le personnage principal, mais presque, ça alterne en fait en fonction des scènes. Donc le fils qui entre dans cette phase un peu compliquée de l'adolescence, ou en tout cas de la sortie de l'enfance, à qui une partie de l'audience peut s'identifier, qui veut se construire en opposition à son père, en opposition au carcan familial, au carcan de l'étang. Parce que voilà, il veut justement sortir en fait de cette bulle de confort pour découvrir le monde et à travers ça se découvrir. Donc c'est la prise d'indépendance de ce petit canard qui devient grand canard, mais également ça pose la question en fait d'une indépendance vis-à-vis de nous-mêmes, parce que plus que Dax, le personnage à mon avis principal de ce film, c'est le père, c'est le canard Mac, parce que c'est comment est-ce que lui qui retenait en fait sa famille dans cette bulle, dans cette sécurité totale et même voire oppressive du coup, comment est-ce que lui va prendre de l'indépendance vis-à-vis de ses peurs, de ce qu'on lui a appris, de ce qu'on déduit qu'en fait il a lui-même hérité de son propre père. Et comment est-ce que lui va prendre son indépendance par rapport à son confort, par rapport à ce qu'il savait déjà, et par rapport à ce qu'on lui a transmis pour transmettre justement à ses enfants ce que lui n'a pas eu. Parce que ça pose également la question de la parentalité, mais plus que de la parentalité, de la paternité. La figure du père est donc très importante parce que ce n'est pas le fils qui est le personnage principal à mes yeux, alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit un jeune pour que les enfants s'identifient. Non, en fait, c'est un père qui essaye d'être le meilleur père qu'il soit. Et c'est posé dès le début, c'est en fait, je leur fais peur, mais c'est pour les protéger. Je veux que ma famille elle soit protégée, je veux que mes petits canards ne se fassent pas manger par un gros vilain héron. Donc j'ai trouvé qu'il y avait des thèmes intéressants qui voilà, sortaient du cadre de films pour enfants où il s'est tapé la tête contre un mur, c'est rigolo. Donc, sauf que malheureusement, même s'il y avait cette question, par exemple, de la paternité, qui est très intéressante, parce que normalement, on voit la maternité avec la mère qui va protéger ses enfants, qui apprend la petite fille à être une princesse, blablabla. Bla bla. Là, on a un père de comment être un bon père, comment ne pas être un père oppresseur. Mais pour autant, c'est inabouti. À un moment, le canard Mac gueule sur son fils. « Non, je veux pas que tu m'aides, je veux que tu m'obéisses. » Et... On comprend que c'est pas bien, que c'est pas le parent qui veut être, mais pourtant c'est laissé sans suite en fait. Mmh. Et c'est le cas d'un peu tous les personnages, de le petit canard Dax qui prend pas complètement son indépendance parce que sa place au sein de la famille n'est pas remise en question alors qu'il est capable de prendre des initiatives alors qu'il grandit. Le père, il développe un sens de l'aventure, mais pour autant il développe pas plus d'écoute vis-à-vis de sa famille et son... Voilà, son approche à la paternité ne change pas vraiment, donc j'ai trouvé qu'il y avait des thèmes intéressants qui étaient lancés, des thèmes qui dépassaient le simple cadre de films pour enfants, qui auraient pu parler donc à un public enfant et adulte, ce qui à mes yeux est un peu tout le fun des dessins animés, sauf qu'ils ne parlent pas que à une catégorie de la population, mais c'était inabouti autant dans le fond que dans la forme. Malheureusement, je suis allée le voir en VF, je me suis rendu compte quand il était trop tard et que le film avait commencé. Mais ça manquait, je ne sais pas si c'est le cas dans la VO, mais ça manquait cruellement de travail de doublage. Un film animé, même si les expressions des oiseaux sont rigolotes, c'est aussi tout le jeu de la voix qui est mis en avant, et le travail de doublage c'est toujours super intéressant. Et là par exemple, il n'y a pas un seul humain qui parle de tout le film, ce qui est intéressant, ce ne sont que des oiseaux. Mais montrez-moi comment parlent les différentes espèces d'oiseaux. Là, elles parlent toutes avec un accent parisien. Alors que vous êtes en train de me dire que, voilà, il y a un perroquet de la Jamaïque qui a... De la même façon qu'un canard qui vient d'au-dessus de New York, de la même façon qu'un vieux pigeon qui a perdu une patte à Central Park. Bref. Donc autant dans la forme que dans le fond, j'ai trouvé ça un peu décevant, pas à la hauteur de ce qu'on avait pu voir du CEO Illumination. Et niveau film d'oiseaux, je ne prétends pas être une experte, hein, mais j'ai vu Rio de 20th Century Fox, donc voilà, j'ai au moins un élément de comparaison. Et là, pareil, on tente de faire danser des oiseaux, on met de la musique sympa, sauf que c'est également inabouti. Rio, ce qui fait tout le fun de ce film, ou en tout cas ce qui a fait tout le fun quand j'étais gamine, c'est parce qu'il y a de la super musique de samba, et même il y a des chansons, ça bouge, les oiseaux ils dansent beaucoup mieux que moi. Et là on tente un truc parce qu'on sait que ça a marché pour d'autres films, mais encore une fois c'est tout inabouti. Je sais qu'on peut pas demander des miracles, mais de la part du studio Illumination, je m'attendais à mieux, surtout qu'on voit en ce moment plein de dessins animés qui sont très chouettes, qui portent des sujets qui ne sont pas que enfantins, et ça on le voit beaucoup dans l'animation japonaise. Donc, tout ça pour dire, ouais, j'ai vu du canard qui parlait pendant une heure et demie, quoi.
Bah, moi, juste pour revenir sur le thème, toute l'histoire que tu décrivais, ça me faisait trop penser au Croods. Je sais pas si vous l'avez tous vu.
Oui.
Mais, et là, pour le coup, je trouve qu'ils avaient bien géré les évolutions des personnages, avec le père qui aussi enferme les personnages dans la grotte, etc., par peur de ce qui va se passer ensuite, et finalement les personnages ils arrivent vraiment à évoluer, ils prennent conscience qu'il couvre trop sa famille, le personnage principal de la fille elle évolue aussi, etc., etc. Donc moi ça m'a fait hyper penser à ce scénario là.
J'y avais pas pensé, mais ouais t'as complètement raison, et ça insiste sur le fait que bah, en fait c'est du vu et revu quoi.
Ouais c'est dommage.
Ouais, parce que du coup l'histoire avait du potentiel et on n'a pas
exploité.
C'est ça.
Ouais, j'ai beaucoup parlé pour une histoire de canard, quand même. Je m'en
c'est intéressant, franchement. C'est... Bon, bah. Victoire, est-ce que tu pourrais nous parler de ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine ?
Alors, je vais vous parler d'un coup de cœur, effectivement. J'ai commencé en vous parlant d'Asia Jebar, donc de son vrai nom, Fatma Zora Himalayan. Elle est née en 1936. À Tchertchel, c'est à quelques kilomètres d'Alger. Elle a fait toute sa scolarité en Algérie avant de rejoindre en 1955 l'école normale supérieure, devenant la première femme algérienne à être admise à cette école. Par la suite, elle sera écrivaine. Elle n'aime pas trop le terme écrivaine, donc on dira elle sera écrivain, parce qu'elle trouve que dans écrivaine, le mot veine sort un peu trop fort quand on l'entend, et ça lui plaît pas trop. Puis enseignante en Algérie d'abord, puis après l'indépendance au Maroc, en France et aux États-Unis. Sa carrière donc, elle est dans un premier temps littéraire, riche d'une vingtaine d'œuvres, romanesques mais également poétiques, qui lui vaudra une élection à l'Académie française en 2005, mais également la distinction du fait d'être l'un des membres de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Elle est probablement aujourd'hui considérée comme l'une des auteurs les plus reconnues en France, mais aussi à l'international, puisque ses romans sont traduits en 21 langues. Et depuis 2015, en Algérie, il y a un prix qui s'appelle le prix Asia Jebar du roman, qui récompense chaque année la production littéraire algérienne. Bon là, vous devez vous dire, tout ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais j'y viens. Parce que en plus d'être une écrivaine, un écrivain, enfin une femme de lettres en tout cas, Asia Jebar a fait du cinéma. Et selon moi, l'apport qu'elle fait au cinéma est non négligeable. Puisque en effet, elle est la seule écrivain cinéaste de son époque. Elle a été la première femme cinéaste, puisque la Marocaine Farida Benliazid ne tournera son premier long métrage qu'en 1988, soit 10 ans plus tard que Asia Jebar, donc au Maghreb. En 1977, pardon, elle débute le tournage de son premier long métrage qui s'appelle La Nouba et des femmes du monde de chez nous, qui sera diffusé l'année suivante. Peut-être qu'un jour je pourrai vous en parler, mais aujourd'hui c'est son deuxième film que je suis venue vous recommander et qui est un gros coup de cœur, qui s'appelle La Zerda et les Chants de l'Oubli, qui est sorti en 1982. Alors La Zerda et les Chants de l'Oubli, c'est quoi ? La Zerda en algérien, ça renvoie à une cérémonie d'hommage à un saint local. Et c'est aussi le fait de rendre grâce par un festin offert à la communauté, généralement après une épreuve douloureuse. Oui, bon, mais encore. Il s'agit d'un long métrage d'un peu plus d'une heure qui se divise en 5 parties, dont 4 portent le nom d'un chant. Le chant de l'insoumission, le chant de l'intransigeance, le chant de l'insolation et le chant de l'immigration. Jebar ouvre son récit par un avertissement. Déjà tout un programme. Je cite. Dans un Maghreb totalement soumis et réduit au silence, photographes et cinéastes ont afflué pour nous prendre nos images. La Zerda est cette fête moribonde qu'ils prétendent saisir de nous. À partir du hors-champ, de leurs regards qui fusillent, nous avons tenté de faire lever d'autres images, lambeaux d'un quotidien méprisé. Donc, en effet, cette Zerda, c'est un bout à bout de bobines d'archives du cinéma muet puis parlant, filmé par les Européens. Et c'est à partir de ce matériau filmique, composé de scènes d'archives du cinéma européen tournées entre 1912 et 1942, qu'Asia Jebar compose un essai poétique où la bande-son donne la parole aux Maghrébins. poésie, cris de révolte et chants, en arabe et en français, viennent, en contrepoint de l'histoire officielle, faire revivre la domination vécue par les peuples nord-africains. Le procédé de la voix off se retrouve démultiplié, avec plus non seulement une introspection d'une héroïne, mais la multiplicité des voix chantant à l'unisson et se répondant ou s'affrontant les unes les autres. Cette complémentarité entre le son et l'image est propre au cinéma d'Assia Djebbar. Elle dit un jour « Faire du cinéma, pour moi, ce n'est pas abandonner le mot pour l'image, c'est faire de l'image-son, c'est effectuer un retour aux sources du langage. » Peut-être plus qu'aucune autre cinéaste des années 70, Djebbar parvient, dans ce second film, à véritablement illustrer l'idée de Godard selon laquelle, devant toutes les manipulations de l'image, seule la bande sonore peut témoigner d'une vérité. Cette vérité est à la fois dure et empreinte d'une grande beauté et d'une grande poésie. Donc voilà, je vous recommande ce super film, qui est à la fois mi-fiction, mi-documentaire, qui d'ailleurs a été couronné par le Festival de Berlin en 83 comme meilleur film historique, et qui est disponible en ligne sur la chaîne YouTube Archives numériques du cinéma algérien, qui fait d'ailleurs un travail remarquable en mettant à disposition de nombreux films algériens gratuitement. Voilà.
Trop bien, merci beaucoup Victor pour ton coup de cœur.
Alors mon coup de cœur à moi, c'est un film qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Je veux juste en finir et qui a été réalisé par Charlie Kaufman en 2020. J'ai découvert ce film grâce à un compte Instagram qui fait des sélections des meilleurs films mindfuck. Donc je me suis dit, allez, on fonce.
J'aime les différences de genre qu'il y a au sein de ce groupe.
C'est vrai, oui, nous avons tous des...
C'est la diversité. Donc en fait, dans le film, on va suivre un jeune couple, donc Louisa et Jake, qui vont faire tout un road trip pour aller chez les parents de Jake pour que Louisa fasse leur connaissance. Et donc, un peu à la manière de Get Out, toute l'histoire va tourner autour de cette rencontre de Louisa et de ses beaux-parents, et tout va... entre guillemets dégénéré à partir de cette rencontre. Dégénéré au sens calme du terme quand même, malgré
tout. Ça va. En fait,
le film n'est pas brutal, c'est un film qui est très très long, qui est très très lent, c'est presque 2h30 de film, avec des scènes qui peuvent paraître totalement interminables, avec le couple qui discute sans trop rien faire dans la voiture. On a des... Enfin vraiment, la scène de la voiture, ils font des allers-retours, des pauses, c'est extrêmement long. On n'a pas de musique ou presque pas, on a des plans qui sont statiques, on n'a pas de couleurs, etc. Donc le film, il peut être long en apparence, puisque quand on regarde un petit peu en profondeur dans le film, ben le contenu, il est extrêmement dense, il est extrêmement riche de sens. Tous les dialogues, même dans la voiture qui paraissent totalement anodins, et ben ils ont un sens, ils servent à la narration du film de façon extrêmement intelligente. On a des gros plans sur un élément précis du décor qui veulent vraiment dire quelque chose aussi, qui participent au malaise général du film. On a toujours l'impression de rater un élément. On a un gros zoom, mais on comprend pas pourquoi il est là. Que ce soit parce qu'on voit pas une menace imminente ou on voit pas un élément de réponse qui compléterait toute notre compréhension du film. Donc voilà, tout le film, en fait, il va se jouer dans l'incertitude. On sait pas précisément où on se situe géographiquement. On sait pas... quel personnage est dans la pièce, on ne sait pas vraiment qui sont les personnages et quelles relations ils entretiennent. Et l'incertitude, elle va aussi se jouer sur la notion du temps qui passe et de la perception du temps, qui est en fait le sujet central du film, sans trop vraiment dévoiler, parce que je veux vraiment, si vous le regardez, vraiment que vous soyez surpris autant que moi. Les personnages, ils sont vraiment à chaque fois mis en parallèle, Louisa, l'héroïne, et la belle-mère, voilà, sans trop vous en dire. Ils ont tous une perception différente du temps qui passe, ils ont tous un âge différent, ils vivent tous dans une époque différente, donc c'est assez bien foutu. Et donc voilà, je voudrais juste souligner quand même que le personnage de la belle-mère est joué par Toni Collette, donc l'actrice de génie qui avait joué dans Hérédité, dont j'avais parlé dans l'épisode d'Halloween, je crois, et qui est extrêmement efficace. Et toute cette réalisation et tout ce concentré du film, ben, il aboutit à la question finale. Est-ce que le titre « Je veux juste en finir », pardon, il se réfère à la fin de la relation entre Jake et Louisa, ou est-ce qu'on parle de la mort d'un personnage, la mort de l'héroïne, et encore une fois, par un éventuel suicide, ou par la vieillesse, par l'âge, etc., dont on parle pendant tout le film de façon répétée.
Ou du film qui fait 2h30.
Ouais, c'est ça. Quel...
Oui, je veux juste en finir.
C'est un peu ça, si on comprend pas un petit peu le plus, c'est exactement ça. Donc finalement, je veux juste en finir, c'est un film indépendant avec un charme fou et aux allures de film mining, voire de film d'horreur, à qui il faut vraiment donner sa chance malgré la lenteur apparente du film. Voilà.
Je suis désolée, tu l'as bien vendu, mais je crois que j'irai pas le voir quand même.
Non, mais je comprends. Enora, si tu veux nous parler de ton oui. coup de cœur ou ton coup de gueule.
Alors moi c'est un coup de cœur et c'est pas sur un film cette semaine, c'est sur une exposition, l'expo Bollywood Superstars au Quai Branly qui est jusqu'au 14 janvier au Quai Branly du coup. Voilà. Donc cette exposition retrace toute l'histoire du cinéma indien et de comment on en est venu à un star system qui est vraiment survénéré avec des énormes stars qui ne sont pas forcément connues en France, mais plus en Angleterre, par exemple, parce qu'il y a une plus grosse diaspora indienne, comme Aishwarya Rai, et il y a une autre star, mais je ne me souviens plus de son nom, je suis désolée. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est très lié à la mythologie hindoue. Et donc, le cinéma indien, et surtout le Bollywood, c'est-à-dire les films des grands studios, qui sont souvent des comédies musicales, parce qu'il y a aussi un cinéma indien indépendant, comme avec Sœur, je ne sais pas si vous l'aviez vu il y a quelques années, ou d'autres films. Mais donc là, c'est surtout sur le Bollywood et les comédies musicales, etc., qui est assez méconnu en France parce qu'il n'est pas sous-titré. Pourquoi il n'est pas sous-titré ? Parce qu'en fait, ils ont assez d'audience en Inde. Il y a plus de 1 milliard de locuteurs, plus il y a toute une diaspora, du coup, surtout en Angleterre, etc. Donc, c'est sous-titré en anglais, mais bon, ils n'ont pas besoin de le sous-titrer en français. Et puis surtout, c'est des films assez spéciaux et spécifiques à la culture indienne qui durent 3h30 avec des danses et et de la musique traditionnelle. Et puis, c'est souvent des films d'amour, mais sans vraiment d'acte d'amour. S'il y a un baiser dans un film, c'est déjà beaucoup. Donc c'est quand même assez spécifique à la culture indienne. Donc, c'est pour ça que c'est assez peu connu en France. Et moi, je ne connaissais pas tellement les Bollywood. J'avais juste vu Devdas, qui est un des plus connus, qui est une sorte de Roméo et Juliette indien de 3h30. Mais j'ai trouvé ça super cool d'en apprendre plus. Et surtout, l'exposition est très bien faite et très expliquée. Et moi, j'avais la chance d'y aller lors d'une soirée jeune. Donc, c'était gratuit. C'était en lien avec les passes culture, etc. Et du coup, il y avait des guides dans chaque salle qui nous expliquaient vraiment très précisément ce qu'il y avait écrit sur les panneaux et avec plus de détails, etc. Donc, c'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette exposition qui est très, très riche. Il y a beaucoup d'extraits visuels aussi. Donc, je vous la conseille très fortement. En ce moment, il y a pas mal en plus d'expos sur le cinéma, entre celle d'Agnès Varda à la Cinémathèque qui est super aussi. Et il y a aussi une expo sur les musiques de films dans les films Gaumont, qui s'appelle Les Marguerites Gaumont par Chassol, à la Gaîté Lyrique, c'est gratuit. Alors, celle-là, je ne l'ai pas trop aimée, mais bon, vous pouvez quand même y aller. Au moins, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez bosser à la Gaîté Lyrique, il y a un espace de travail à côté. Mais en tout cas, je vous conseille Bollywood Superstars, c'est jusqu'au 14 janvier, et c'est super.
Et en plus, si je ne me trompe pas, tous les dimanches, au musée du Quai Branly, il y a justement des activités spéciales
oui.
en lien avec l'exposition.
Surtout pour les enfants, mais oui.
Oui, mais en même temps, moi...
T'as vu des films de canards.
Films de Bollywood, ça
ne
me dérangerait pas, quoi.
Oui, ça doit être... oui, j'ai vu ça. Ça doit être très cool aussi, en effet.
Trop canon. Bah, franchement, je retiens. Bah, merci beaucoup, Elenora. Et Léna, si tu veux nous parler de ton coup de cœur ou ton coup de gueule.
Moi, ce sera mon coup de cœur, parce que en cette dernière semaine de cours de mon dernier semestre de master... de la fin de mes études de toute ma vie, excusez-moi, je verse une larmichette, je voulais rendre hommage à la série qui m'a vraiment suivie pendant toute ma scolarité à Sciences Po, qui est Brooklyn Nine-Nine.
Oh.
Voilà, merci de fictionner, c'était un bon coup de cœur. Et non, bah déjà c'est 30 minutes d'épisode, donc au moment des révisions, c'est parfait. Quand tu te dis « Ah non, je peux pas regarder un épisode de 40 minutes, c'est trop long, mais il faut que je veux regarder un truc, ou pendant que je mange, j'ai besoin d'une pause, à l'aide, sortez-moi de ça », bah tu te lances un épisode de Brooklyn Nine-Nine. Parce que c'est drôle, c'est pas prise de tête. Même comme ça, il y a des moments où ça a des discours assez construits sur les enjeux féministes, racistes, LGBT+, sans pour autant que toute la série, ça soit... militons pour tel truc, militons pour tel truc. J'ai dit ça alors que j'adore les films où ça milite, mais là n'est pas la question. Et les personnages sont attachants. Il y a 8 saisons, si je ne me trompe pas, avec une quinzaine d'épisodes à chaque fois. Donc voilà, moi ça m'a suivi pendant toute ma scolarité à Sciences Po. Ça m'a suivi pendant toutes mes périodes de révision. Et je voulais donc lui rendre hommage et vous dire, allez la regarder, en plus elle est en intégralité sur Netflix. Donc, bon bail pour vos révisions de décembre.
Moi j'avoue, trop trop bien. Ben écoutez, c'était l'épisode 11 de Popcorn Sucré. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Pour du contenu spécial Noël, attendez la semaine prochaine. Et bon courage pour vos révisions. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.
Les au revoir sont toujours complets.